Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ?
Je ne sais pas ce que je veux faire.
Je ne sais pas ce que je veux faire.
Tu n'as aucune idée ?
Boulanger, pâtissier.
Graphiste.
Je veux peut-être devenir ingénieur.
Éclairagiste.
Plus tard, j'aimerais faire médecin, photographe.
Maçon. Avocat.
J'aimerais bien faire un cadre supérieur.
Les jeunes.
Découvrent.
Les métiers.
Ouais.
Bonjour, nous sommes sur RVM, Radio Valois-Mussien, 93.7 pour l'émission « Les jeunes découvrent les métiers », animée par les 3e du Collège Jean de la Fontaine. Au micro, Audrey Jacquet. Aujourd'hui, j'anime cette émission avec Audelin.
Bonjour.
Marie.
Bonjour.
Et Léa.
Bonjour.
Et nous accueillons M. Éric Morel.
Oui, bonjour.
Vous êtes animateur nature. Pouvez-vous, en quelques mots, nous décrire votre métier ?
Alors, mon métier consiste à faire découvrir la nature à des gens qui ne sauraient pas d'eux-mêmes voir les choses intéressantes dans la nature. Donc, ça consiste à emmener les gens découvrir la faune, la flore, leur faire prendre conscience qu'elle est importante pour qu'ils puissent la respecter. Si possible, leur faire changer les comportements des gens.
Quelle faune découvrez-vous ?
Alors, on a la chance autour de Crépy-en-Valois d'avoir beaucoup de forêts. On a beaucoup d'actions sur le milieu forestier. Et donc, la faune qu'on découvre, c'est la grande faune de nos forêts. Donc, les cerfs, chevreuils, sangliers, renards, blaireaux. Et beaucoup d'actions aussi sur les décomposeurs, des petites bêtes qui peuplent la litière forestière. Donc, sous les feuilles mortes, dans le bois mort, les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, enfin... On s'intéresse à beaucoup, beaucoup d'animaux.
Ça fait combien de temps que vous faites ce métier ?
Ça fait 8 ans.
Quelles compétences il faut ?
Pour être animateur nature, on ne s'improvise pas animateur nature. Moi, je fais ça parce que depuis que je suis tout petit, je suis passionné par la nature. Et vous avez eu raison de poser la question de la faune, parce que une des portes d'entrée, enfin, un des centres d'intérêt, quand j'avais 8-10 ans, c'était les animaux. Il faut être passionné. Les compétences particulières, après, il faut avoir envie de transmettre ses connaissances. Parce qu'il y a plein de gens passionnés qui ne sauraient pas parler de leur métier, transmettre ses connaissances. Des compétences, il faut être pédagogue, savoir expliquer les choses, simplement. Ce qu'on appelle aussi la vulgarisation. Voilà, il faut être capable d'expliquer les différents rythmes de la vie, les différents cycles naturels, mais d'une manière simple.
Faites-vous également la découverte des champignons ?
Non. Les champignons, c'est un sujet qui est assez compliqué. J'en connais quelques-uns, mais je ne suis pas mycologue. Donc non, je ne m'y connais pas assez.
On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette.
Une cueillette de quoi ?
Champignons !
Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. D'ailleurs, il va pleuvoir.
Quelle étude faut-il faire ?
On peut faire différentes choses. Enfin, les diplômes pour arriver au métier d'animateur nature, ça peut être très varié. J'ai des collègues qui ont bac plus 5. Moi-même, je suis allé jusqu'à un bac plus 3. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Les diplômes qui sont requis, donc il y en a un qui s'appelle le BPGEPS, éducation à l'environnement vers un développement durable. C'est le nom du diplôme. Sinon, généralement, c'est un bac plus 2. Et il y a notamment un BTS, donc un brevet de technicien supérieur, avec une option gestion et protection de la nature.
C'était quoi le déclic de cette passion ?
Donc, le déclic de cette passion, quand j'avais 8 ans, j'habitais dans une des 5 villes nouvelles de l'Île-de-France, donc à côté de Cergy-Pontoise. Donc, c'est une ville qui a la particularité d'avoir été construite vraiment au milieu de nulle part, enfin au milieu des champs. Et donc, dès qu'on dépasse les limites de cette ville, on est dans la nature. S'amuser en ville, un peu ennuyant à force. Un jour, je ne sais pas pourquoi, comme tu dis, le mot déclic, il est intéressant. Je suis sorti de la ville et je me suis retrouvé tout de suite en forêt. Et ce jour-là, j'ai vu des perdrix, j'ai vu des lapins, j'ai vu des chevreuils. J'ai vu des choses que je ne connaissais pas et qui étaient fascinantes parce que... Il n'y avait plus les voitures, c'était un autre monde. Enfin, depuis ce jour-là, tous les cadeaux que je demandais, c'était des livres sur les oiseaux. Un livre super qui s'appelle « Copain de la nature » ou « Copain de la forêt ». Enfin, d'avoir contemplé, d'avoir admiré la nature. Ce que j'essaye de faire, c'est pas de changer les comportements des gens, c'est de leur montrer à quel point c'est beau pour que le changement il vienne d'eux-mêmes. Faut pas être trop prétentieux de vouloir changer les gens.
Ce métier a-t-il beaucoup évolué depuis que vous exercez ?
Ben, j'exerce pas depuis très longtemps. En 8 ans, j'ai pas vu beaucoup de changements. J'étais dans la même structure. Non, j'ai pas vu d'évolution particulière. Bien que, en fait, je vous décris un métier où, animateur nature, on a l'impression qu'on va dehors avec un groupe de personnes, qu'on leur explique la nature, qu'on fait une sortie. Aujourd'hui, les évolutions, on peut accompagner des communes, des collectivités vers une prise en compte de la nature dans la ville. Parce que je vous parle de la nature à l'extérieur, mais la nature, elle est aussi en ville. Et il y a de plus en plus une prise de conscience des communes qu'il faut sensibiliser à la nature en ville. Donc ça, c'est peut-être une des évolutions notables. La nature en ville, c'est dans les jardins, dans les parcs. Et dans certaines villes, c'est même sur les trottoirs. Et on trouve des plantes très intéressantes qui poussent entre les pavés au bord des trottoirs.
Accompagnez-vous des groupes de personnes au brame du cerf ?
Oui, ça arrive. Mais c'est à la demande de groupes. Principalement, en fait, on travaille avec des scolaires. Les sorties grand public, on en fait très peu.
Auriez-vous aimé être photographe animalier ?
La photographie, c'est assez compliqué. Quand je vois certaines expositions, je me dis qu'il faut avoir des sacrées compétences. Il y a des photographes qui sont très bons naturalistes. Je suis naturaliste, mais la photographie, j'y connais pas grand-chose. Mais j'utilise les photos dans mon métier pour clôturer un sujet. On peut faire découvrir une exposition, un photographe. La photo, j'aurais bien aimé, mais la technique m'a bloqué.
Quels sont les outils que vous utilisez pour ce métier ?
J'essaye de ne pas utiliser trop d'outils, parce qu'on a vite fait de se protéger, de se cacher derrière des objets, des outils. Mais quelque chose de très simple, une loupe, on peut utiliser un couteau, un filet à papillon. Et après, les outils les mieux adaptés, c'est ceux qu'on a sur nous. Tout le monde est venu avec ces outils là, dans le studio, pour découvrir la nature. Et les outils, ben, ça va être les oreilles, les yeux, les doigts. On peut goûter des choses. En fait, les outils qui correspondent à nos cinq sens peuvent suffire pour découvrir la nature.
Vous faites des sorties, mais les sorties, est-ce que ça peut être nocturne ? Ça peut durer sur 2 jours ou plus ?
Alors des sorties nocturnes, oui, on en fait, notamment sur le thème des chauves-souris. Et des sorties qui dureraient 2 jours, alors on accueille des groupes sur plusieurs jours. Mais on ne fait pas de sorties avec des bivouacs. Je sais qu'il y a des structures qui le font, qui accueillent un groupe et découvrent la nature. Ils installent un campement et voilà, la sortie dure vraiment 2 jours avec une nuit passée sous tente. Nous, on ne le fait pas, ça. Au pied des remparts à Crépy-en-Valois, on a déjà emmené des gens à la découverte des chauves-souris et aussi à la découverte des grenouilles, tritons et des petites bêtes aquatiques dans la mare des remparts.
Avez-vous une collection de petits animaux, genre un papillon, luciole ?
Non, j'ai pas de collection de papillons. Mais j'ai des collections bizarres. J'ai une collection d'indices, de traces et d'indices d'animaux. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes outils d'animation. Donc, je repense à ça. Donc, les traces et les indices d'animaux, ben, c'est une collection bizarre, mais j'ai des poils d'animaux, j'ai des crottes d'animaux, j'ai des restes de repas d'animaux, mais pas d'insectes épinglés. Ça peut être intéressant pour découvrir des espèces, mais moi je me suis jamais intéressé à la capture et à l'épinglage d'animaux entiers.
Est-ce qu'il y a des animaux en danger et que faites-vous pour ça ?
Alors, il y a plein d'animaux qui sont en danger. Ce qui met les animaux en danger, c'est très souvent l'altération, le fait qu'on va abîmer leur milieu de vie, leur habitat. Et parfois, on abîme des choses sans le savoir. Alors, il y a une phrase que tous les animateurs nature, toutes les structures qui font de l'animation nature disent souvent, c'est « on ne protège bien que ce qu'on connaît bien ». Pour protéger les choses, ce que je fais, j'essaye de transmettre le maximum de connaissances. Donc, on va protéger les choses qu'on connaît et qu'on apprécie. Une bonne astuce pour protéger la nature.
Quels sont les animaux en danger ?
autour de chez nous, en danger. On va parler plutôt d'animaux qui sont menacés. Je pense tout de suite aux chauves-souris parce que ce sont des espèces qui ont des exigences au niveau de leur habitat très particulière. On a des espèces emblématiques. Alors vous en connaissez, des espèces emblématiques qui sont en danger. On pense souvent à la grande faune en Afrique, où on nous parle des pandas, des ours polaires. Mais chez nous aussi, on a des animaux qui sont en danger, notamment au petit rhinolophe, une chauve-souris, qui a un habitat qui est menacé.
Aimeriez-vous rencontrer un loup dans la forêt ?
Super question. D'actualité en plus, j'aimerais bien, mais en Picardie, ça ne va pas arriver tout de suite. Même si le loup se déplace en peu de temps sur de très longues distances, donc il passera, il est peut-être déjà passé en Picardie. C'est un animal qui est craintif. Ce serait une très grande chance de pouvoir en voir un. Ouais, j'aimerais bien en voir un. Il y a un autre animal qui est assez rare en Picardie, parce qu'il est dans la limite ouest de sa répartition géographique en Europe, le chat forestier, le chat sauvage. Et c'est peut-être l'animal, avant le loup, parce que le loup, il n'est pas présent, mais c'est l'animal présent le plus difficile à observer dans l'Oise. J'aimerais bien voir un chat sauvage avant de voir le loup.
Êtes-vous déjà allé dans un autre pays pour découvrir d'autres faunes ou flores ?
C'était pas le but du voyage. À chaque fois que je vais, notamment à l'étranger, je m'intéresse aux particularités de l'endroit où je suis. Tu veux des exemples, peut-être ?
Oui.
J'ai habité il y a quelques années dans les Antilles françaises, donc en Guadeloupe. Et là, on n'a pas du tout la même faune. Et il y a même une particularité dans certains endroits du monde, notamment en Guadeloupe, il y a des espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire qui ne vivent que à cet endroit-là. Donc j'ai pu observer un pic qui ne vit que en Guadeloupe. Donc ça, c'était fascinant. Et d'autres oiseaux, des oiseaux marins, des pélicans, des frégates qu'on ne trouve pas ici. J'ai eu la chance aussi d'aller en Guyane. Et là, la Guyane, c'est l'Amazonie, donc c'est fantastique. Pouvoir faire du canoë la nuit derrière des caïmans dans un marais en Guyane, c'était quelque chose qui a marqué mes souvenirs d'animateur nature. Bon, je ne m'appuie pas beaucoup là-dessus dans l'Oise, hein, parce que les caïmans dans l'Oise, les crocodiles, j'en ai pas encore vu. Mais...
Pourquoi y a-t-il moins d'hirondelles ?
Pourquoi y a-t-il moins d'hirondelles ? Alors, les hirondelles ont plusieurs soucis. Principalement, on va dire, leur régime alimentaire, c'est un régime insectivore. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'insecticides. La nourriture des hirondelles a été directement impactée. Et un autre souci chez les populations d'hirondelles, c'est une espèce qui fait son nid dans des endroits qui, aujourd'hui, vont être très souvent aménagés par les hommes, donc dans des granges, dans des combles, au point qu'on n'a pas le droit de détruire les nids qui sont chez soi. Les nids sont protégés. Enfin, l'espèce est protégée, mais pour protéger une espèce, il faut protéger son habitat. Et ça va jusqu'à protéger les nids. C'est interdiction de détruire des nids d'hirondelles.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour trouver un métier ?
Dans l'animation nature, et je pense que c'est comme ça dans tous les métiers, pas se disperser. Le conseil que je donnerais pour être animateur nature, c'est, dès qu'on s'intéresse à la nature, de ne pas le faire tout seul, dans son coin, avec des bouquins, c'est très intéressant. Mais il faut se rapprocher d'associations et avoir des actions bénévoles, être présent, essayer d'être un spécialiste de la nature et pas attendre d'être professionnel pour être spécialiste. C'est un milieu où on peut se spécialiser tout en étant bénévole. Il y a beaucoup d'associations et on peut commencer très jeune. Il faut s'impliquer.
Pour moi, le métier d'animateur nature, c'est la découverte.
L'animateur nature, c'est la vie.
Pour moi, animateur nature, c'est protéger les animaux.
Pour moi, animateur nature, c'est comme un rêve d'enfant.
Pour moi, l'animateur nature, c'est quelqu'un qui protège la forêt.
Pour moi, animateur nature, c'est un métier passion. C'est donner envie aux gens, leur faire prendre conscience qu'elle est importante pour qu'ils puissent la respecter, en leur montrant à quel point elle est jolie.
Le temps de cette émission est écoulé. Nous remercions M. Éric Morel de nous avoir consacré cette émission.
Je vous en prie.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Cette émission est le fruit d'un partenariat entre
Agir ABCD, le collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois et RVM.
Vous pouvez écouter toutes les interviews de l'audiothèque des compteurs de métiers
sur notre antenne 93.7
ou en podcast
sur le site www.radio-valois-moulcien.fr.